Radio Okapi. Le journal Belinda Bosuma.
La méningite a déjà tué 129 personnes à Banalia dans la Tchopo sur 267 cas enregistrés. Les plus affectés sont les jeunes de plus de 15 ans, annonce faite par la vice-ministre de la Santé hier à Kinshasa. Le gouvernement congolais compte coupler les opérations d'enrôlement des électeurs, de recensement et d'identification de la population, option examinée hier dans une réunion entre le Premier ministre et la commission mixte d'experts. Pour le ministre du Plan, l'enrôlement des électeurs prendra fin d'ici l'année prochaine. Et puis, l'invité de ce midi, Gilbert Kishiba, recteur de l'Université de Lubumbashi, il nous parle des travaux des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire qui se tiennent depuis quelques jours à Lubumbashi. Madame, Messieurs, bonjour. Santé tout d'abord. 267 cas, dont déjà 129 décès enregistrés. C'est le bilan de l'épidémie de méningite qui sévit actuellement dans la zone de santé de Banalia, dans la province de la Tchopo. La tranche d'âge la plus touchée est celle de plus de 15 ans. C'est la vice-ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Madame Véronique Kilumba, qui a donné ces chiffres dans une adresse faite hier à Kinshasa et au cours de laquelle elle a déclaré l'épidémie de méningite dans cette partie du pays. Elle a annoncé également une série des mesures du gouvernement pour faire face à cette épidémie. Madame Véronique Kilumba, dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Elali Coco.
19 échantillons de liquide céphalo-rachidien ont été prélevés et envoyés au laboratoire Pasteur de Paris en France. Les premiers résultats sont sortis en date du 6 septembre 2021 et confirment la présence de Neisseria meningitidis sérogroupe W. Plusieurs actions ont été entreprises sur terrain déjà avant la confirmation, notamment le renforcement de la surveillance épidémiologique et des laboratoires, l'isolement et la prise en charge des cas et la sensibilisation de la communauté. Une équipe du niveau central est déjà à pied d'œuvre sur terrain pour appuyer la province. Au vu des normes et recommandations du règlement sanitaire international RSI 2005, nous déclarons ce 7 septembre 2021 l'épidémie de méningite à méningocoque dans la zone de santé des Banalia dans la province de la Tchopo.
Par ailleurs, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention appelle à une collaboration mondiale afin d'élaborer une riposte concertée contre le coronavirus. Le docteur Jean-Jacques Mbungani a lancé ce message à Rome, en Italie, lundi dernier, à l'occasion de sa première intervention lors de la deuxième et dernière journée de la réunion ministérielle de G20. On écoute le ministre Jean-Jacques Mbungani dans cet extrait choisi par Jean-Pierre Elali Coco.
Reconnaissant que la seule façon de mettre fin à la pandémie est de protéger les vies et les moyens de subsistance sur le continent et de réussir à immuniser une masse critique de la population africaine, le bureau des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a approuvé le 20 août 2020 la stratégie de développement et d'accès aux vaccins contre la COVID-19 qui vise à immuniser 60% de la population africaine d'ici 2022. Il devient donc urgent d'accélérer la mise en place des pools africains de fabrication des vaccins et des produits de diagnostic et de traitement. L'Union africaine en général et la RDC singulièrement soutiennent que la mise en commun des ressources liées à la santé ainsi que leur gestion efficace et rationnelle sont des axes stratégiques importants à mettre en œuvre de manière opérationnelle pour réussir la couverture sanitaire universelle. Nous sommes déterminés à mener des activités de plaidoyer et de sensibilisation pour qu'une grande partie de la population africaine soit immunisée à travers une forte campagne de vulgarisation sur l'intérêt de la vaccination, car le vaccin reste la seule arme capable contre la COVID-19 qui vise à immuniser 60% de la population africaine d'ici 2022.
Pendant ce temps, en Ituri, plus de 25 personnes sont mortes depuis avril dernier, aussi des personnes déplacées de Djaïba, faute de soins de santé appropriés. Information livrée par leur président, Dieudonné Padjou. C'était hier, lors d'une rencontre avec la délégation du leadership de la MONUSCO en visite à Djaïba, dans le territoire de Djougou. Selon Dieudonné Padjou, ce site qui héberge plus de 2000 familles n'a aucune structure sanitaire. Conséquence, certains malades sont obligés de parcourir plusieurs kilomètres pour s'approvisionner en médicaments. médicaments, ce qui les expose aux exactions des assaillants de la Codeco qui errent dans la zone. D'autres qui ne peuvent pas se déplacer du site meurent sur place, ajoute-t-il. Le représentant de ces personnes vulnérables lance ici un appel au gouvernement et aux humanitaires pour leur venir en aide afin de sauver des vies humaines. Dieudonné Kpadjou au micro de Martial Kiza.
Sur les plans sanitaires, nous n'avons pas moyen de nous soigner quand il y a des cas de malades, par exemple. Et ici, récemment, avec la saison pluvieuse ici, le froid, on est mal à l'aise, on passe une nuit sous des bâches, dans la boue. Vraiment, on est mal à l'aise. Et quand quelqu'un tombe malade, il meurt automatiquement. Nous avons déjà enterré 25 morts. Depuis le mois d'avril jusqu'à maintenant. Il n'y a pas l'accès de soins, le manger, vraiment c'est complet. Et ce que nous pouvons dire aux humanitaires, jusque-là, nous ne sommes pas assistés. Chacun vit de sa manière. Quand quelqu'un sort le matin, pour du moins s'endetter quelque part dans les familles et des connaissances comme ça, bon, là, on va peut-être lui donner des petits travaux pour avoir du moins 1500 francs. Les gens vivent toujours de cette manière.
De son côté, la responsable de la coordination humanitaire en Ituri, Ocha, présente à cette rencontre, a précisé qu'une réunion des ONG intervenant dans cette région aura lieu le 17 septembre prochain. Ce sera pour évaluer des besoins d'urgence dans ce site en vue d'une intervention. Nord Kivu, la pluie qui s'est abattue pendant plusieurs heures hier soir sur la ville de Butembo a fait au moins un mort et causé d'importants dégâts matériels. Le chef du quartier le plus touché fait savoir que des recherches ont lieu actuellement pour voir s'il y a d'autres victimes. Les explications avec Grévis Salomon.
La pluie a commencé vers 15h jusqu'à tard dans la soirée. Elle était accompagnée des vents violents qui a déraciné des arbres dans la ville et sa périphérie. Les eaux de la rivière Kimemi qui traversait la ville l'ont débordé, inonda de nombreuses maisons d'habitation situées sur le littoral. Un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années qui tentait de traverser les ponts du Sécatenaire dans la soirée a été emporté par les eaux. Son corps a été retrouvé ce matin du côté des Pourou vers le nord de la ville en aval de la rivière Kimemi. Le chef du quartier Kalemire qui annonce cette nouvelle indique que des recherches continuent au bord de la rivière pour établir un bilan définitif. Côté dégâts matériels, on enregistre plusieurs maisons d'habitation inondées dans les quartiers Londo. Ce matin, les habitants s'affairaient pour dégager les ordures charriées par les eaux de la pluie dans leurs maisons. Les niveaux des eaux a baissé, mais de nombreuses familles riveraines ont dû abandonner leurs maisons pour trouver refuge dans les parties de la ville où les eaux de la rivière ne sont pas arrivées. Plusieurs ménages ont perdu des biens emportés par les eaux. Ils en appellent à une intervention du gouvernement. Butembo, Grévis Salomon, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, le gouvernement congolais envisage de coupler les opérations d'enrôlement des électeurs, de recensement et d'identification de la population. Au cours d'une réunion hier, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a examiné cette option avec la commission mixte d'experts conduite par le ministre du Plan, Christian Mwando. Ces experts sont de la primature, du ministère du Plan, de l'Institut national des statistiques, de l'Office national d'identification de la population ONIP et de la CENI, plus de détails avec Billy Van Lutumba.
Ces experts ont rencontré le Premier ministre pour lui remettre le rapport des travaux sur l'organisation de toutes ces opérations. Le ministre d'État au plan, Christian Mwando, indique que les opérations d'enrôlement des électeurs pour le scrutin de 2023 seront terminées d'ici l'année prochaine.
Pour diminuer le coût, on a mis les trois opérations qui vont faire certaines opérations ensemble. Les opérations d'enrôlement qui seront faites avec l'appui de la CENI vont être terminées normalement, si tout va bien, l'année prochaine déjà. Tandis que les opérations d'identification de la population et les recensements général vont aller jusque mai 2023. Ceci va permettre d'une part d'avoir les enrôlés pour préparer les prochaines élections suffisamment à temps et d'autre part d'avoir les cartes d'identité d'ici mai 2023 et à côté de cela avoir un outil de planification en connaissant le nombre d'habitants en République démocratique du Congo et le nombre des structures sociales et de travail en République démocratique du Congo.
D'après Christian Mwando, le travail fait par les membres de cette commission d'experts a permis de déterminer un budget global de 600 millions de dollars en lieu et place de 900 millions de dollars qui seraient dépensés par le gouvernement si les opérations étaient organisées de manière séparée.
Entre-temps, au Congo central, la cérémonie de remise et reprise entre l'ex-gouverneur Atumat Bwana et son adjoint Justin Luemba, désigné par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur pour assumer l'intérim à la tête de la province, a eu lieu hier à l'hôtel du gouvernorat à Matadi. Le secrétariat général du gouvernement provincial a notifié hier le gouverneur sortant Atumat Bwana à ce sujet. D'autres détails avec Nana Plurish Mambou.
C'est par l'arrêt 1171 rendu par la Cour constitutionnelle que Atumat Bwana a été déchu de sa qualité de gouverneur de la province du Congo central. Il cède sa place à son adjoint Justin Luemba, qui, conformément à la Constitution, a été notifié par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour assumer l'intérim en attendant que la CENI organise les élections de gouverneur et vice-gouverneur dans les 14 provinces concernées. Plusieurs aspects seront pris en compte à cette cérémonie de remise-reprise, notamment les budgets d'investissement récemment obtenus du gouvernement central, différents comptes bancaires de la province et leurs soldes, différents contrats signés avec des tierces, des dossiers administratifs en cours et traités, de l'actif et du passif de la province, ainsi que tout autre dossier et pièces ayant trait à la gestion de la province. Justin Luemba a plusieurs défis à relever. C'est notamment les problèmes liés à l'insécurité dans quelques coins de la province, la réhabilitation de la voirie urbaine et des routes de desserte agricole, et l'impayement des agents des services généraux des péages et taxes qui acquisent 18 mois d'arriéré des salaires. À Matadi, les avis divergent quant à cet échange provisoire à la tête de la province. Certains soutiennent le nouveau chef de l'exécutif intérimaire, affirmant que Justin Luemba pourra mieux gérer le Congo central. D'autres, en revanche, estiment qu'il est le pur produit d'Atumat Bwana et qu'on ne peut rien attendre de lui. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Notez que la cérémonie de remise et reprise entre le gouverneur sortant Atumat Bwana et son adjoint aura lieu ce mercredi à 15h, heure de Matadi. Rendons-nous au sud Kivu. Une accalmie s'observe sur l'ensemble de la province et plus particulièrement dans les hauts plateaux de Fizi et Uvira. Plus de deux semaines sans incident majeur dans les zones chaudes de la province, les FARDC attribuent cette accalmie à leur prédominance sur la coalition des groupes armés dans la région. L'armée appelle la population à la collaboration pour pérenniser cette situation. Emmanuel Elamegi nous en dit plus.
Il va faire bientôt un mois que le Sud Kivu vit une accalmie sécuritaire totale. Des hauts plateaux d'Uvira et Fizi, en passant par la plaine de la Ruzizi, aucun cas d'attaque ou d'affrontement n'est enregistré. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 au Sud-Sud attribue cette accalmie à l'engagement de l'armée régulière. Major Dieudonné Kasereka.
Pour le moment, il y a de la calvie depuis que nous avons frappé cette coalition mécanique à Tugonéo et ils ont été mis en débandade. C'est comme ça qu'il y a de la calmie. Mais nous continuons à demander l'accompagnement de la population. Si la population va continuer à nous soutenir, cette calmie va perdurer.
Cette situation favorise à présent le mouvement de la population pour des activités commerciales et économiques. Dans le territoire de Calais qui vit la même accalmie, le grand défi reste la lutte contre la pauvreté. Monsieur Dédé Mwamba, administrateur de territoire.
Il n'y a plus vraiment de problème. On a besoin que de la paix qui est gage même du développement dans les hauts plateaux. Puisqu'il faut vous dire que la population du haut plateau continue à souffrir sérieusement. Parce qu'il y a une pauvreté, l'inaccessibilité, il n'y a même pas de route.
Signalons que la plupart des groupes armés du Sud Kivu adhèrent déjà au programme DDRCS pour leur réinsertion communautaire. Emmanuel Elamejwa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Au nord Kivu voisin, situation sécuritaire et humanitaire déplorable dans le groupement Oufamandou 1er dans le territoire de Masisi, alerte du ministre provincial de l'Intérieur en suspension momentanée. Cela fait suite à l'activisme du groupe armé Maachano Aguma qui est retourné dans cette entité après sa désertion du centre de reddition de Mubambiro. Jean Bosco Sebichimbo appelle les humanitaires à avoir un regard sur les conditions humanitaires très précaires que traversent les déplacés dans leur milieu de refuge. Denise Kesso nous fait le point.
Au moins une dizaine d'agglomérations du groupement Oufamandou 1er sont vidées de leur population. Ces dernières ont fui vers le centre de Kachovu, Niamili et Remeka, entre autres. C'est à cause de l'insécurité accrue causée par la milice Maachano de retour dans cette région. Sur place, leurs conditions de vie restent à désirer, alerte les ministres de l'Intérieur en congé et élus du terroir. Ils lancent un plaidoyer auprès des humanitaires pour qu'ils puissent focaliser leur attention sur ces coins et subvenir aux besoins de cette population qui a presque tout perdu.
Pendant que cette population était au point de pouvoir récolter, voilà, les rebelles viennent prendre possession de leurs espaces. C'est comme ça que la population a fui pour se concentrer là où il y a au moins nos forces armées. C'est une période pluvieuse qui commence. Ça veut dire que cette population a besoin de bâches pour se couvrir contre les intempéries. Une population qui a tout laissé. Ça vaut la peine que je fasse ce plaidoyer pour que les humanitaires puissent orienter les yeux vers là et ainsi voir cette population un peu soulagée.
Jean Bosco Sebichimbo dit fonder son espoir aux forces loyalistes pour permettre à ces populations de rentrer dans leurs biens. Goma, Denise Louquet sur Radio Kapi.
Du côté du Kasaï, un mouvement massif des Congolais en provenance de l'Angola s'observe vers la frontière de Kamako dans le territoire du Tchikapa. Ses compatriotes rentrent à la suite d'un ultimatum lancé par les autorités angolaises demandant aux étrangers non en règle de retourner dans leur pays. Déjà sur place, l'hygiène aux frontières qui déplore les conditions dans lesquelles ces familles retournent plutôt indique avoir enregistré des centaines de personnes depuis le 6 septembre et le mouvement continue. Christian Mabedi, responsable de ce service, parle des risques des maladies, surtout pendant cette période de COVID-19. Il en appelle à l'intervention des autorités. Il a été joint depuis la frontière de Kamako par François Kadima.
Ils viennent en masse. Il n'y a pas moyen de respecter les mesures barrières. Il n'y a pas moyen de faire une bonne surveillance parce qu'ils sortent en masse. Les conditions ne sont pas vraiment très bien réunies. Ils ont un problème de transport. De l'autre côté, ils viennent au bord de Vekil. Mais chez nous ici, la distance qui sépare la frontière jusqu'à la cité, c'est quelque chose de plus de 7 kilomètres. Ils font le pied. Il y a même dans leur groupe, il y a même les enfants qui n'ont pas de parents, les enfants non accompagnés, lorsqu'ils arrivent à la cité, vous voyez la prise en charge pose des problèmes. Et surtout que ces derniers temps, toute la bande frontalière est enclavée, surtout Kamako. Il n'y a pas une bonne communication routière avec Tchikapa. Situation humanitaire est précaire.
Actualité internationale.
La pandémie de COVID-19 impacte la lutte contre les autres maladies. Nouvelle illustration avec la publication ce mercredi 8 septembre du rapport annuel du Fonds mondial contre le VIH, le paludisme et la tuberculose. Le constat est sans appel. Le COVID-19 a eu un impact dévastateur sur les programmes de prévention des autres épidémies. L'an dernier, pour la première fois depuis 20 ans, la plupart des indicateurs de suivi ont régressé. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a terminé hier une mission visant à évaluer l'avancée du processus de transition au Mali. Au terme de son séjour, la mission a exprimé sa préoccupation concernant la tenue des élections présidentielles et législatives.
L'invité.
Les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire se tiennent depuis quelques jours à Lubumbashi. Pour le recteur de l'université de Lubumbashi et président de la conférence des chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire du Grand Katanga, ces travaux sont une opportunité pour que ce secteur se remette en cause en vue de son amélioration pour répondre aux besoins de la société. Gilbert Kishiba, recteur de l'université de Lubumbashi, notre invité, s'entretient avec Jean Gando.
Monsieur le recteur Gilbert Kishiba, bonjour.
Bonjour, merci.
Est-ce que c'est important d'organiser les états généraux de l'enseignement supérieur universitaire?
On n'avance pas lorsqu'on ne sait pas se remettre en question, lorsqu'on ne sait pas faire l'autocritique, de savoir d'où on vient, où l'on se trouve, où on devrait aller en regardant sur sa propre expérience, son parcours, l'expérience et les apports des uns et des autres, y compris les expériences d'autres universités et d'autres universités. C'est la sommation de cette remise en question, objet d'ailleurs des universités. En passant par la recherche, on s'interroge absolument quelles seraient les meilleures solutions par rapport à l'éducation RDC dans le secteur de l'enseignement supérieur universitaire. Et donc, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, son Excellence Zandi, a trouvé qu'il était important de relayer immédiatement le programme gouvernemental sur l'éducation mue par le président de la République en vue d'obtenir un enseignement supérieur universitaire de qualité, dans le sens de rendre compte au service à la communauté à travers la recherche et l'éducation. Donc c'est important, il fallait vérifier si nos méthodes de travail, nos systèmes d'enseignement, de formation conviennent à la qualité que nous voulons chercher, à l'université que nous voulons.
Monsieur le recteur, vous êtes en même temps président de la conférence des chefs d'établissement dans l'espace Grand Katanga. Quels sont donc les problèmes particuliers ou spécifiques à cet espace et qui pourraient être débattus au cours de ces assises?
C'est des problèmes globaux et spécifiques à toute la RDC. En misant sur les apports et les mises en commun des uns et des autres pour chercher les meilleurs moyens, les meilleures façons, les meilleures méthodes, les meilleurs modèles en vue d'avoir un enseignement qualitatif justement. Et là, il y a une volonté du gouvernement de faire avancer l'enseignement supérieur universitaire vers la compétitivité, vers l'innovation, et ça nécessite un redressement, un réajustement de nos modèles, de nos façons de procéder pour avoir un nombre qualitatif au sujet d'une société qualitative. En fait, c'est une question de mise en valeur de plusieurs réflexions qui finalement ont fait preuve d'efficacité, par exemple le système d'enseignement RDC, mais qui au fil du temps devrait être contextualisé, répondre à une certaine authenticité ici en RDC. En cherchant la qualité, avoir un système qui rassure et qui peut garantir d'une façon ou d'une autre, mis à part les volontés politiques, les politiques publiques, les budgets en vue de soutenir, entraîner tout ça vers un mouvement d'innovation.
Que diriez-vous à ceux qui pensent que les méthodes qui sont actuellement utilisées dans nos universités sont dépassées, il faut vraiment les réactualiser?
Oui, c'est nécessaire d'écouter toutes les options, toutes les voies en vue de convenir sur une option consistante et innovante. La critique, elle est bonne. Évidemment, on attend la pratique.
À l'université de Lubumbashi, par exemple, il y a le système LMD qui avait été tenté une fois. Que tout autre est sûr, ce système est en train d'être repoussé. Alors, comment voulez-vous embrasser ce que les autres sont en train de vouloir s'en débarrasser?
Lorsqu'il appelle à l'universalité, s'il est bien appliqué, et nous pouvons prendre le risque de l'universalité, c'est aussi ça le destin des universités, entendu qu'on peut avoir un LMD à la façon de la RDC. Un LMD qui ne rejette pas les acquis, les valeurs, les richesses de notre système éducatif consistant et qui a fait ses preuves dans le cadre de la formation, de la ressource. On peut constater aussi qu'il faut une mise en valeur du point de vue de l'innovation. Et donc la recherche aurait besoin qu'on aille vers ces tendances à l'universalité sans que nous soyons une copie de quelques systèmes que ce soit. Donc s'il y a un système éducatif de tel pays qui remet en question le LMD ou un autre système éducatif, ça peut ne pas nous engager. Ici, nous sommes à la recherche d'un système éducatif qui rassure et garantit le point de vue de la formation de qualité pour une société qualitative.
Gilbert Kisséba, je vous remercie.
Merci, Monsieur Jean Gandou.
Et c'est par ici que s'achève ce journal. Vous pouvez le réécouter sur notre site www.radiocapi.net.